Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour et bienvenue à notre Radio Vogt. Et c'est la première émission de la journée. Et pour ça, donc, on va, avant de commencer à en parler, à discuter, c'est toujours, je commence par des paroles avant de présenter l'invité ce matin. Ce qui a été dit aussi donc, dans l'inauguration, je rappelle les mots qui nous permettent donc, de bien démarrer cette émission. Nous sommes toujours comme des livres. Et à partir de ça, la plupart des gens ne voient que notre couverture. Au mieux, ils lisent notre résumé. Ou bien se fait la critique que d'autres en font. Mais ce qui est certain, c'est que très peu d'entre eux connaissent notre histoire. Et c'est pour ça qu'on va bien démarrer. Et je vais donc donner la parole pour se présenter à mon invité de ce matin. Voilà, je te donne la parole.
Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 15 ans et j'ai écrit un livre sur le harcèlement scolaire qui s'appelle Virtuel et qui a été publié en novembre dernier. Et je suis là aujourd'hui pour parler de harcèlement et pour parler de mon livre et pour témoigner sur ce sujet qui est malheureusement trop répandu et trop grave pour être tu.
Alors, ce livre-là, pourquoi penser à écrire un livre sur le harcèlement? C'est par rapport à donc, des témoignages ou par rapport à ton histoire?
Alors, j'ai écrit ce livre au départ pour me libérer de mon histoire. J'en avais pas encore conscience à l'époque, mais j'ai subi deux fois du harcèlement scolaire dans ma vie. Et j'ai écrit ça pour me libérer de ça, mais aussi pour donner la parole à des témoignages que j'avais entendus, qui étaient aussi mis à l'écart ou trop tus. Et j'ai combiné tout ça et j'en ai écrit une histoire pour justement permettre aux gens d'avoir une parole et permettre à moi-même d'avoir une espèce de libération par rapport à ça.
Est-ce que donc... Avant d'écrire les livres, c'était des personnes qui t'ont poussé pour dire voilà, c'est par l'écriture qu'il faut donc en parler, ou c'était donc vraiment le seul moyen pour vraiment faire passer vraiment ce message?
C'est par moi-même, j'ai trouvé ça comme un défouloir. J'avais déjà écrit un livre quand j'étais plus jeune et j'avais trouvé que ça m'avait beaucoup aidé, beaucoup libéré, beaucoup canalisé. Donc j'ai recommencé, j'écrivais des textes au départ et puis j'ai fini par en écrire un livre.
Alors donc pour ça donc c'est comment donc quand on parle de harcèlement, c'est souvent donc on le voit dans des faits divers, on le voit souvent donc toujours par rapport à des violences, etc. Mais c'est vrai par rapport à ce que j'ai lu dans le livre, il y a donc c'est rarement c'est le cas ou l'histoire qu'on entend rarement. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment si une personne lit, il dit c'est pas ça l'harcèlement. Donc
Le harcèlement, ça peut être différentes formes. On montre toujours la forme extrême, les violences physiques, le cyberharcèlement qui pousse au suicide. Mais le harcèlement, avant ça, c'est des moqueries. C'est des gens de votre entourage qui vous piquent vos affaires ou qui vous caractérisent par un trait de caractère à vous. La petite intello, le petit mouton, des choses comme ça. Et au départ, vous trouvez ça normal. Vous ne trouvez pas ça violent, vous ne trouvez pas ça ridicule. Et vous banalisez ça en disant que c'est pas du harcèlement. Puis c'est en prenant du recul, en vous rendant compte que ça vous fait vraiment du mal et que vous faites du mal pour vous soulager, qu'en fait c'est pas normal. Et il y a très très peu de personnes qui en parlent parce que beaucoup de personnes se disent mais non, c'est normal, c'est juste des taquineries entre amis, alors que pas du tout. À partir du moment où vous vous sentez mal, où vous vous faites du mal, où vous pleurez, où vous avez de la culpabilité, où vous vous mettez en question par rapport à des choses que vous entendez, c'est que les choses là, elles sont pas normales.
Donc c'est pour ça, est-ce que donc là, on peut savoir déjà le début de l'histoire? Voilà, c'est à partir de quel moment ou avant donc le début donc l'harcèlement, c'est comment ça s'est passé déjà?
Au départ, c'était simplement des petites taquineries, de la petite intello, la petite grosse quand j'étais plus jeune. Puis après c'était le petit mouton.
Ou ça partait de quel âge?
La première fois c'était quand j'avais 9-10 ans, mon dernière année de primaire. Et la deuxième fois c'était l'année dernière. Oui, c'était au départ des gens qui me piquaient mes affaires ou qui me donnaient des surnoms un petit peu péjoratifs, mais je trouvais pas ça violent à la base. Puis quand ça devient répétitif, quand on se remet en question, quand on commence à se détester ou à se dire que en fait on est peut-être la personne qu'on nous définit, on n'est peut-être pas la personne qu'on pense, on se remet en question, on change de caractère, de comportement, c'est que c'est pas normal. Et c'est au fil du temps où je me suis autodétruite la deuxième fois, où vraiment je me suis fait du mal à moi-même pour supporter ça. Que ça a été un cercle vicieux et que plus tard, quand je me suis reconstruite, j'ai compris que ce n'était pas normal.
Alors, comment ça s'est passé, ça s'est déroulé donc, ces moments-là?
Ben, au départ, je pleurais juste. C'était juste des larmes. J'écrivais beaucoup, 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 les deux fois. C'est dans ces périodes-là que j'ai écrit mes livres à chaque fois, d'ailleurs. J'écrivais beaucoup. Et la première fois, c'était juste des pleurs ou des cris, ou juste des coups que je me mettais. Et quand j'ai grandi, donc l'année dernière, vu que j'avais plus de connaissances sur l'autodestruction, parce que je me renseignais là-dessus pour écrire, je me suis autodétruite, je me suis scarifiée, je me suis donné des coups. Et je me disais que c'était juste pour me libérer, que j'étais juste un peu tarée ou un peu bizarre. Et qu'en fait, non, c'était juste des conséquences de ce harcèlement-là.
Donc, c'est un peu donc, détailler les événements. Donc, voilà, donc, comment ça s'est passé le départ et à quel moment, après, combien de temps pour vraiment sentir ou se rendre compte de vraiment de l'harcèlement?
Au départ, donc, je ne me rendais pas compte. Je m'autodétruisais. Tous les soirs, je me faisais du mal, tout ça. Je me disais juste que j'étais mal dans ma peau, comme toutes les ados. J'ai laissé couler. Je suis rentrée au lycée, j'ai laissé couler. Et il y a une fois où tout est sorti, où j'ai explosé, où vraiment j'ai tout dit à tout le monde. Et quand j'ai commencé ça, j'ai eu un suivi psychologique après. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'était du harcèlement. Il m'a fallu une bonne dizaine de mois avant de comprendre que c'était du harcèlement. Après avoir vécu l'autodestruction, le mal-être, le manque de confiance en soi, tout ça. Et il m'a fallu 6 mois après le jour où j'ai tout dévoilé pour comprendre que c'était vraiment du harcèlement.
Alors, ça commence et comment? Comment ça commence? Donc, pour que les personnes qui vont vivre ça... Ils se rendent compte que c'est, même si ça commence comme ça, c'est pas l'amusement, c'est pas la rigolade. Voilà, comment ça s'était pas eu le départ?
Au départ, c'était juste des petites moqueries, juste des petits surnoms un peu péjoratifs. Et après, ça a été, on m'a piqué mes affaires, on partait dans la cour avec, on courait avec, on les mettait dans des endroits où j'avais pas le droit d'aller, en sachant très bien que j'avais pas le droit d'y aller, pour que je galère à les récupérer. On mettait dans des situations un peu compromettantes. On faisait des petits croche-pieds ou des choses comme ça. Et moi, prenez ça à la rigolade. Donc c'est comme ça, c'est progressif. Au départ, c'est des surnoms. Après, c'est un petit peu physique. Puis quand on laisse trop attendre, malheureusement, ça part dans des cas extrêmes. Moi, j'ai eu la chance que ça ne parte pas jusque-là. Mais il y a énormément d'adolescents qui n'ont pas ma chance et qui, des fois, se retrouvent à faire des tentatives de suicide parce que c'est parti beaucoup trop loin. Donc au départ, c'est que des petits surnoms, que des petites choses. On ne pense pas que c'est du harcèlement, mais en fait, c'est déjà le commencement. C'est déjà les prémices du harcèlement. Et il faut réagir dès ce moment-là. Parce que quand on attend trop, après, on part dans des cas beaucoup trop extrêmes, beaucoup trop complexes, où il y a beaucoup trop de monde qui est concerné et c'est très difficile d'en sortir après. Vaut mieux, dès le début, arrêter ça, aller voir des gens, mettre fin juste aux petites moqueries, pour éviter que ça aille plus loin et que la personne se détruise.
Et les personnes qui provoquaient ça, c'était des ennemis ou des amis?
Non, c'était des gens de mon entourage qui faisaient partie de mon groupe d'amis large, genre des amis d'amis la plupart du temps, qui me faisaient croire qu'on était potes. Moi, je trouvais ça normal aussi. Du coup, on se fréquente, donc c'est normal. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que maintenant, que ces gens-là, en fait, se moquaient clairement de moi et j'en avais pas conscience à l'époque. Et c'était deux fois les mêmes personnes. Et deux fois, je m'en suis pas rendu compte.
Et ces personnes-là étaient combien de temps avant de réagir comme ça? C'était depuis la sixième ou c'était...
Alors la première fois, c'était en primaire, donc c'était déjà les mêmes personnes. Et au collège, on s'est refréquenté, j'ai laissé couler, je me suis dit non, c'était rien. Puis quand ça a recommencé, je me suis aussi dit je vais partir au lycée, donc ce sera rien, je les verrai plus et puis c'est tout. En fait, c'était pas rien les deux fois et j'aurais dû réagir les deux fois, mais j'étais tellement dans un cercle vicieux de c'est de ma faute, non, c'est rien, je culpabilise, en fait, c'est peut-être moi la coupable et je laissais couler. Alors que je ne devrais pas. Et justement, les victimes d'harcèlement ne doivent pas laisser couler, ne doivent pas se sentir coupables, parce qu'elles sont coupables de rien du tout. On n'est pas coupable d'être soi-même, on n'est pas coupable d'être différent. Tout le monde est différent et tout le monde a le droit d'être unique, donc on n'est pas coupable de porter des couronnes de fleurs, on n'est pas coupable d'avoir 18 de moyenne, on n'est pas coupable d'être un peu dans bon point. On n'est pas coupable d'avoir une couleur de peau différente, on n'est coupable de rien du tout. On n'est pas coupable d'être soi-même. Et il ne faut pas s'en vouloir de ça. Donc si quelqu'un commence à nous critiquer parce qu'on est nous-mêmes, il ne faut pas laisser faire. Sinon, on se remet en question et on finit par s'en vouloir alors qu'on est coupable de rien.
Et est-ce que c'était toujours que par des paroles ou c'était...
Heureusement pour moi, ils n'ont pas été jusqu'au cou. C'était que des paroles ou des petits croche-pieds. Ce n'était pas des coups violents. On ne m'a pas pris dans la cour pour me foutre par terre. Une ou deux fois, on m'a mis des claques, mais c'était dans des contextes particuliers. Enfin, je ne veux pas dédouaner ça, mais je n'ai pas été la victime qu'on a mis par terre et qu'on a tapé assise, quoi. On ne m'a jamais vraiment levé la main dessus. On ne m'a jamais vraiment frappé jusqu'à me blesser. C'était plus psychologique. Et je pense que c'est même le pire. On te met une claque, ça fait mal sur le coup. La claque psychologique, elle est encore pire parce que ça reste, ça dure, ça perdure et ça fait des traces et ça détruit encore plus.
Et en primaire, comment ça s'est passé avec les adultes, c'est-à-dire les enseignants?
Personne ne rien.
Est-ce qu'il y avait déjà des gens, ils s'en rendaient compte ou il n'y a pas de réaction, c'était normal?
Non, parce qu'à chaque fois, j'étais à la fois isolée par rapport aux autres gens, mais en même temps, j'avais quelques amis. Du coup, ça passait inaperçu. Les amis en question m'aidaient, m'épaulaient, étaient là les deux fois. D'ailleurs, c'était même deux fois les mêmes amis. Ils étaient là, ils voyaient pas tout, mais enfin, ils voyaient certaines choses, mais vu qu'ils pensaient pas que ça m'atteignait autant, du coup, ils disaient rien ou ils m'aidaient, ils m'épaulaient, ils me consolaient, mais ils voyaient pas que ça pouvait me blesser autant. Du coup, je pourrais jamais leur en vouloir pour ça, mais vu que j'avais ces amis-là, les adultes autour, bah, ils voyaient pas parce que ça passait inaperçu.
Il y avait pas de souffrance quand début de sixième, ou dire voilà, ce que j'ai vécu en primaire, on a toujours des séquelles, qu'on la sent chaque fois par un moment, ou ça a disparu.
Laissé derrière moi, je pensais que c'était le meilleur. Je pensais qu'il fallait vraiment que je laisse ça dans mon passé. J'ai publié mon premier livre, je me suis dit, ben c'est bon, c'est derrière moi. Je l'ai écrit parce que là aussi, il y a des traces de harcèlement dans mon premier livre, que j'ai pris conscience que maintenant, que c'était aussi du harcèlement, mais... J'ai laissé derrière moi, je me suis dit mais non, je grandis, je me reconstruis, c'est un nouvel établissement, une nouvelle vie, c'est derrière moi, on s'en fiche. Et c'est de nouveau les mêmes personnes qui ont fait les mêmes erreurs, donc du coup je me suis dit mais pourquoi? Et je me suis jamais posé la question avant maintenant, avant aujourd'hui, avant de publier mon deuxième livre, avant de grandir et de comprendre que tout ça c'était pas normal. Mais au collège j'avais tourné la page, je me suis dit que c'était rien et qu'il fallait pas que j'y pense et que voilà, alors que j'aurais dû réagir déjà à ce moment-là.
Et le livre, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de temps pour réfléchir avant de le commencer, ou c'était d'un seul coup, une fois, t'as pensé, t'as dit voilà, il faut que j'écris quelque chose ou...
Le livre, je l'ai écrit comme ça parce que j'avais envie d'écrire en fait, j'avais pas conscience que c'était une thérapie au départ. Après, plus j'écrivais, plus je prenais ça pour une thérapie, mais pour moi, les mots, c'était que des mots. Et en fait, ils avaient un sous-entendu, ils avaient un intérêt pour moi, mais je le comprenais pas. Je me disais, mais ce que j'écris, c'est pas moi, alors que c'était totalement ce que je vivais, j'étais dans un déni complet, parce que je pensais pas que c'était du harcèlement.
Et à quel moment... T'as senti que c'était là vraiment l'harcèlement?
Ben, c'est quand j'ai écrit mes livres à chaque fois et quand j'étais voir un psychologue, j'ai vu des spécialistes de ça, des gens qui travaillent dans des foyers sociaux ou dans des hôpitaux psychiatriques ou quoi, que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ben, en fait, c'était du harcèlement. En fait, t'aurais dû réagir. En fait, ça aussi, c'est du harcèlement. C'est pas que les coups, c'est pas que le cyberharcèlement. Tout ça, ça fait partie. Et j'en ai pas eu conscience tout de suite avant de parler à ces personnes qui m'ont dit, mais non, en fait, c'était du harcèlement. Il a fallu qu'on m'aide à comprendre.
Et comment, donc quand on veut écrire un livre, parfois on ne sait pas par quoi commencer, par quoi. Donc, comment alors ça s'est passé pour écrire le livre, déroulement?
Au départ, c'est des notes qu'on prend sur des petits cahiers, sur des agendas, sur des bouts de papier, même des fois sur nos mains. C'est des petites notes, des petites idées qui viennent comme ça. Et après, on se dit, tiens, ce serait bien de les mettre en forme. Alors, on les note sur une feuille. On se dit, bon, on devrait peut-être les lier comme ça, comme ça. Et ça vient tout seul. C'est... plus on a d'idées, plus on a envie d'écrire. Et une fois qu'on a trop d'idées, bon, vraiment les mettre en forme. Après, ça prend du temps. Ça prend entre... Moi, le premier m'a pris 8 mois, le deuxième m'a pris 1 an et demi. Ça prend beaucoup de temps. Ça vient pas tout de suite, ça vient pas comme ça. Mais une fois qu'on a les idées, qu'on a l'ambition, qu'on a l'envie, on prend un stylo, puis ça s'écrit tout seul. Pendant 2 heures, 3 heures, on peut être là à gratter, à gratter, à gratter. C'est une fois qu'on a l'idée, ça vient tout seul.
Et donc, au niveau de la classe de 3e, quand ça a commencé? Donc... C'était depuis le début de l'année ou c'était donc seulement
Au départ, l'année se passait plutôt bien. Enfin, j'avais eu des petits soucis de mon côté, mais c'était pas par rapport au collège, pas par rapport à ces gens-là. Du coup, je me disais, bon, on a tous des problèmes dans notre vie, passons, quoi. Et à partir de janvier, février, quand j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup d'amis à l'extérieur, mais qu'à la fois j'avais beaucoup d'amis dans le collège, ça m'a pas aidé dans les deux cas, parce que j'ai eu des histoires un peu partout, et que ces gens-là, justement, ont commencé à me donner des petits surnoms, à me faire des croche-pieds, à me piquer mes affaires. Et en dehors de ça, j'avais des histoires un peu ailleurs. Et du coup, ça m'a confinée. Je me suis dit, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Et c'est là que je me suis détruite. C'était vraiment progressif. Au début de l'année, il n'y avait rien du tout. Et plus l'année passait, plus c'était compliqué.
Ah, d'accord. Donc, et au niveau des résultats, ça a joué aussi sur
le
travail?
Pas du tout. Et c'est pour ça que mes profs se sont rendus compte de rien. J'ai eu aucune séquelle physique. J'ai eu aucune séquelle psychologique. Visible, j'ai eu aucun problème de résultat scolaire, aucun problème dans mon groupe d'amis. J'ai pas peu de changements drastiques, j'ai pas changé de coupe de cheveux, j'ai pas changé d'apparence, j'ai pas perdu de poids, j'en ai pas pris. J'ai été moi-même, en apparence j'étais normale. Dans ma tête, y a rien qui allait, mon apparence j'étais moi.
D'accord. Et le déclenchement, ça a commencé à quel moment donc?
Pardon?
De réagir.
Réagir, ça a commencé quand je suis entrée au lycée. Que je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu as vécu, c'était pas normal. Et c'est oui, il a fallu que je prenne du recul. C'est pas sur le coup, je me suis rendu compte. Il a fallu vraiment que je prenne du recul, que je change de vie pour comprendre que la vie que j'avais menée, elle n'était pas normale.
Et pourquoi le choix, pas faire le lycée ici, et faire un lycée à l'extérieur de Commercy?
Pour plusieurs raisons. Parce que certaines personnes qui m'avaient causé du tort allaient à Commercy. Je me suis dit, bon, si je peux ne plus les voir après, c'est aussi une thérapie pour moi. Parce que j'ai été prise dans un lycée où il y avait un bac bilingue pour ma LV2. Du coup, j'ai passé l'oral et ils m'ont accepté, donc j'ai été là-bas aussi. Il y avait plein de raisons, des raisons personnelles, des raisons scolaires. Il y avait plusieurs raisons qui ont fait que je ne suis pas venue à Commercy.
Donc, ce n'était pas encore l'idée de l'harcèlement, ce choix, le
non,
choix
je n'avais toujours pas conscience que c'était du harcèlement. C'était juste simplement pour plus les voir parce que je n'avais pas d'atome crochu avec. Je n'avais pas conscience qu'ils m'avaient vraiment fait du mal. Enfin, je ne voulais pas l'admettre.
D'accord. Donc, et après, donc là, le déroulement donc, de lycée, donc, au niveau de réaction, est-ce qu'il y avait des discussions avec des élèves voilà, avoir donc des confidences avec... des amis pour discuter.
Quand je suis rentrée au lycée, je me suis liée d'amitié avec une personne en particulier à qui j'ai raconté un peu toute ma vie, qui a fait la même chose avec moi et qui au départ me disait trop rien. Il écoutait et il disait trop rien. Mais là, hier, on en a reparlé. Il m'a dit, mais moi, depuis le début, je voulais te le dire que c'était du harcèlement, mais tu voulais pas l'admettre. Tu me disais jamais harcèlement quand tu m'en parlais. Il me disait, non, c'était des taquineries, mais tu t'as jamais mis le mot dessus. Et il voulait jamais me reprendre là-dessus parce que c'était mon histoire, donc il voulait pas avoir son mot à dire. Mais il m'a dit, depuis le début, j'avais compris que c'était du harcèlement. Ça s'entendait, ça se comprenait. Il me dit, tu n'as jamais admis que ça en était. Je dis, je sais, j'ai jamais voulu l'admettre parce que pour moi, c'était un échec de subir du harcèlement. D'être la risée, de me considérer inférieure à d'autres gens, pour moi, c'était un échec. Et j'aime pas l'échec. Donc, j'ai pas voulu admettre que je m'étais harcelée.
Et après, donc, à quel moment donc, où elle a commencé à dire voilà, donc, la violence par rapport à ton corps et par rapport à la réaction
? Les violences par rapport à moi-même, elles ont vraiment commencé l'année dernière. Donc, à peu près la même période, mars, février, mars, avril, ça a commencé. Où c'était d'abord des petites griffures avec mes ongles. Après, ça a été avec un ciseau, avec un compas. Après, c'était plus que des griffures, c'était des coupures régulières, tous les jours. Au départ, c'était saccadé, c'était une fois, puis une semaine après, une fois. Après, c'était tous les jours où je me suis coupé les bras, je me suis coupé les cuisses, je me donnais des coups sur les cuisses, donc j'avais souvent des bleus. Et vu que je m'habillais avec des pulls, enfin, manches longues, parce qu'on était encore un peu en hiver-printemps, ça se voyait pas. Il n'y a que mes amis qui le voyaient. Donc je continuais, je me faisais disputer par mes amis, je me faisais un peu des leçons de morale, on me disait, mais pourquoi tu fais ça? On est là, nous. Et je comprenais pas, et je continuais. Et il y a un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'il y a des amis qui m'ont dit stop, quoi. Faut que t'arrêtes tout de suite, genre on est là, arrête. Et j'ai arrêté pour eux, mais j'avais toujours envie de continuer. J'ai arrêté pour eux, pour les soulager, mais c'était pas pour en soulager moi parce que j'en avais encore besoin. Et c'est après, quand j'ai pris conscience que c'était du harcèlement, que j'avais pas besoin de ça, que j'ai vraiment décidé d'arrêter. Et ça fait un peu plus de 7 mois que j'ai plus rien fait du tout.
Et comment ça, alors les 7 mois, ça s'est passé comment donc
Au départ, c'est juste une promesse que j'ai faite à mon lycée parce que j'étais sous surveillance. Après, et les surveillants me surveillaient tout le temps. Ils m'avaient confisqué mes objets coupants dans ma chambre au début. Enfin, voilà. À mes parents, parce qu'une fois qu'ils ont tout su, ils ne me faisaient plus trop confiance. Du coup, je leur ai promis. À mes amis, autant du lycée ici que du lycée Nancy, que d'autres lycées que je connais, je leur ai fait la promesse aussi de plus jamais rien faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit maintenant, il faut que tu bouges, il faut que tu te reconstruises. Tu as promis que tu ne ferais plus rien. Maintenant, il faut que tu te donnes la raison de plus rien faire. Donc, mon livre est sorti. J'ai des contacts avec des éditeurs et il est sorti un mois et demi après. Et j'ai essayé de voir des gens, d'en parler beaucoup, de voir une psychologue, de voir des gens qui avaient subi ça aussi pour leur en parler, d'expliquer tout ça à mes amis de Nancy qui ne savaient pas. J'ai essayé vraiment de m'ouvrir, de raconter mon histoire et de faire en sorte d'avoir les moyens d'aider d'autres gens.
Et à quel moment, donc t'as pensé d'en parler, pas seulement avec des amis
Quand mon livre est sorti, je me suis dit maintenant qu'il est sorti, qu'il est en vente, que des gens peuvent l'acheter, qu'ils vont peut-être se reconnaître, et quand les premières personnes l'ont lu, ça aussi ça m'a fait un choc. Ma famille a lu le livre et a dit effectivement il y a des moments durs, t'as vraiment vécu ça, ils n'étaient pas au courant, j'ai dû tout leur expliquer. Et là je me suis dit ok, ma famille est choquée, il y a des gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui sont choqués, qui se reconnaissent peut-être dedans. Et c'est là que j'ai eu un déclic, je me suis dit mais... Fais quelque chose de ça. T'as quelque chose. Le livre, il te permettra de voir des gens, d'organiser des choses, d'aider les autres. Sers-toi-en. Et c'est là que j'ai voulu faire des conférences comme là, aujourd'hui à la radio, que cet après-midi, je vais faire une conférence au cinéma de Commercy. D'ailleurs, venez nombreux si vous venez. Venez, franchement, ça va être sympa. On sera tous ensemble pour en parler. Je vais refaire des conférences dans mon collège.
C'est quoi ça va, comment ça va passer cet après-midi
donc, cet après-midi, je vais donc au cinéma de Commercy avec des gens de l'AMEX de Commercy et avec des gens du CCAS de Commercy. Et je vais être là pour parler avec des adolescents, des parents, des spécialistes. On va parler, on va débattre sur le harcèlement, sur ses conséquences, sur comment l'arrêter, comment le prévenir, comment lutter contre ça. On va parler tous ensemble, donc voilà, si vous voulez venir, venez cet après-midi. Mais voilà, c'est des choses comme ça que j'avais envie de faire pour aider les autres. Parce qu'une fois que je m'étais aidée moi-même, il me semblait important de pouvoir aider d'autres gens.
Voilà, donc on va faire une pause avant de continuer. Et voilà, restez avec nous. On est toujours ensemble avec notre invité. Vraiment, c'est un sujet très important qu'on en parle souvent, mais rarement qu'on entend des témoignages d'une personne qui a vécu ça. C'est-à-dire que c'est pas un adulte ou une personne âgée ou qu'il a passé plusieurs années avant d'en parler. Là, c'est vraiment une jeune qui a vécu ça et qu'il veut vraiment transmettre ça avant que ce soit trop tard. Voilà, à tout de suite, à une pause et on revient. Radio Foc.
sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Donc c'est le retour, toujours bienvenue sur Radio Voc, et on va continuer à discuter sur voilà le thème qu'on est en train de traiter, l'harcèlement. Et avant de continuer avec notre invité, on a aussi notre deuxième invité qui va aussi parler, parce que donc c'est l'année dernière on a déjà discuté sur notre thème, et là c'est voilà, donc c'est aussi donc par rapport à harcèlement. Donc voilà, je lui donne la parole de s'exprimer et de se présenter.
Déjà bonjour, je m'appelle Marie, je suis en CAP AT2 et je viens pour vous parler du harcèlement parce que comme j'ai écouté l'autre élève parler, ça m'a attristée puisque j'avais vécu à peu près la même chose qu'elle mais plus violent. Ça avait commencé en début d'année dans le bus, une fille, je la connais. En sixième.
Ah voilà, donc en sixième.
C'était en sixième, dans le bus en fait. Et c'était une fille que je connaissais pas du tout au départ. Je lui parlais pas. Mais je connaissais son frère qui était en primaire avec moi avant. Et son frère ne m'aimait pas, donc elle m'aimait pas. Donc ça commençait par des insultes dans le bus, tout le temps répétitifs. Et puis, je laissais passer. Après, ça a commencé sur des insultes sur ma couleur de peau, sur ma famille, ou même parce que j'étais en SECPA. Donc, je laissais couler tout le temps. J'en avais jamais parlé à mes parents que je me faisais insulter dans le bus. Au collège, quand je passais dans les couloirs ou dans la cour, elle m'insultait avec ses copines. Un jour, alors qu'on était dans les vestiaires, il n'y avait pas de place attitrée. Et elles sont arrivées, elles ont dit que c'était la place à la demoiselle. Je ne vais pas dire son nom. Et toute ma classe s'était déplacée pour aller à une autre place. Et j'étais la seule à rester parce que je ne trouvais pas ça normal que parce qu'elle a dit que c'est sa place à elle, qu'on doit forcément partir. Donc du coup, j'étais restée et le soir même, pendant un an qu'elle m'avait insultée, et donc c'était... toujours la même personne. En fin d'année, elle m'avait frappée.
Est-ce qu'il y avait des réactions des personnes autour qui quand ils voyaient ou non. Toujours, il fait ça quand il est toute seule avec elle, il n'y a personne autour
Il y avait ses potes, moi j'avais mes potes. Ses copines, elles étaient aussi méchantes qu'elle, autant méchantes qu'elle, mais elle, je crois que c'était la pire. Et du coup, un soir... En fin d'année de sixième, juste pour une place, elle m'avait frappée dans le bus, en fait. Mais vraiment frappée. Et il a fallu que le chauffeur de bus s'arrête et un autre camarade du bus qui nous sépare, quoi. Parce qu'elle m'avait vraiment amochée. Le lendemain, je suis allée voir l'assistante sociale et je ne savais pas, moi, au départ, que c'était du harcèlement, en fait. Je connaissais pas le harcèlement. Et c'est l'assistante sociale et la directrice de SECPA qui m'ont dit que c'était du harcèlement, ce qu'elle me faisait vivre pendant un an. À m'insulter sans arrêt, à me rabaisser. Et après qu'elle m'ait frappée, elles ont continué, tout le temps. Elles ont continué, mais là c'était moins violent pour que personne n'entende, pour que personne ne voit. Et c'est un jour où j'ai commencé vraiment à m'énerver contre elle, à lui dire ma façon de penser qu'elle a arrêté.
Et après, donc, est-ce que ça, t'as pu donc dire, voilà, il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je réagisse, il faut que, voilà, maintenant qu'on m'a parlé, donc c'est l'harcèlement, est-ce que t'as commencé à chercher c'est quoi l'harcèlement, ou t'as dit, je continue comme ça, et j'attends jusqu'à ce que ça s'arrête?
Alors, tout le monde l'année, comme je savais pas ce que c'était le harcèlement, personne ne m'avait dit ce que c'était le harcèlement, sixième, je connaissais pas. Donc, du coup, pour moi, l'insulter, quoi. Pour moi, c'était une pauvre fille qui n'avait rien à faire de ses journées à insulter. Et c'est qu'à la fin de l'année qu'on m'a dit que c'était du harcèlement, quoi.
Et c'est... après, t'as fait quoi? Après, quand on t'a dit que c'est l'harcèlement, qu'est-ce que t'as fait après?
Après, ils m'ont proposé soit de porter plainte, mais en vrai, je n'ai pas voulu, et je pense que ma famille non plus n'avait pas voulu, parce qu'elle était jeune, elle était en sixième aussi. Et voilà, on n'allait pas lui causer trop de problèmes que ça. Donc après, elle a été virée du collège pendant quelques jours pour ce qu'elle m'avait fait. Puis c'est tout.
Et après, qu'est-ce que ça a donné après, par rapport à la suite de toi? Donc, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que cette histoire-là, c'est resté vraiment gravé en toi? Ou c'était,
oui.
Ça, c'est-à-dire que après, ça a disparu avec le temps ou bien ça a laissé des séquelles?
Ça s'est atténué. Ça laisse forcément des séquelles quand on se fait frapper en plein devant tout le monde. Parce que pour nous, on est faible quand on se fait frapper devant tout le monde. Moi, quand je suis rentrée en sixième, j'étais vraiment faible. J'avais pas de caractère. Et donc, c'est sûr, ça laisse forcément des séquelles. Mais après, ça s'atténue avec le temps.
Et est-ce que tu as dit, je vais faire quelque chose, sensibiliser ou bien parler de ça? Est-ce que tu as parlé avec des gens de ça? Ou tu as dit non, tu l'as gardé en toi?
Je l'ai gardé en moi. J'en avais juste parlé à la directrice, assistante sociale et mes parents, quoi. Sinon, je l'ai gardé en moi, quoi. J'en avais pas vraiment reparlé avec d'autres personnes.
Et maintenant, donc est-ce que cette histoire revient souvent ou bien donc c'était maintenant, ça y est, c'est passé derrière?
C'est passé derrière. Après, je ne me suis plus fait harceler. Mais après qu'elle m'ait frappée, elles ont continué encore un peu, quoi. C'était dans les couloirs, même d'autres personnes, ils ont dit qu'elle se fait frapper par un tel dans le bus. Encore en début d'année, en début de cette année-là, j'ai entendu dans la bouche d'autres personnes que je m'étais fait frapper. Bon, c'est sûr que ça fait mal au cœur, mais après, il faut dire, faut laisser passer.
Et est-ce que donc t'as dit, il faut que j'essaie donc de parler de ça à des personnes pour que ça revienne pas, ça recommence pas pour d'autres personnes?
Non. Non, je me suis jamais dit ça, non. Parce que pour moi, je gardais en moi tout simplement. J'osais pas reparler de ça. J'osais pas faire face à ça.
D'accord, donc il n'y avait pas donc de... est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit, non, il faut qu'on essaye donc de t'aider pour essayer donc de parler de ton histoire. Est-ce qu'il y avait dans le collège, après l'événement, de faire des débats ou discuter de ça, sur le harcèlement, après? Ou il n'y avait rien?
Il y a dû en avoir en quatrième et en troisième, sur le harcèlement. Mais c'est tout, quoi. Mais je n'aurais jamais dit que je m'étais fait harceler par un tel, quoi.
Et donc, maintenant, comment... au lycée, est-ce que tu as remarqué des réactions aussi comme ça par rapport à toi ou par rapport à d'autres personnes? Ou tu as eu des personnes qui t'ont parlé d'eux aussi, qui ont vécu comme toi?
Non.
Non,
non, personne.
Et donc, toi, l'harcèlement, c'est vraiment une histoire qu'il faut en parler souvent, ou il faut garder, ou il faut vraiment... Quel conseil que tu peux passer au...
En parler, parce que moi, au final, ça m'a fait du mal de le garder tout un an à se faire insulter, surtout par rapport à ta couleur de peau, ou parce que tu n'en sais pas, qu'on te traite d'handicapé. Donc, il faut en parler. Je sais que moi, je n'ai pas fait la bonne méthode, que j'ai gardé ça pour moi. Et que c'est qu'à la fin de l'année que j'en avais parlé à des adultes qualifiés pour ça.
D'accord. Donc, avant qu'on continue, aussi vraiment, c'est vraiment le témoignage qui nous montre qu'il y a plusieurs sortes d'harcèlement, mais aussi, il faut en parler, il ne faut pas le garder. Donc, on va continuer pour l'instant, à la pause, et on reviendra avec vous pour encore entendre témoignages et surtout savoir comment il faut réagir et surtout donner des conseils et faire passer des messages pour que ça ne recommence pas. Merci, toujours Radio Vogue, quelques minutes de pause et on revient avec vous. Merci.
écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Donc c'est le retour, toujours bienvenue sur Radio Vogue et on va continuer à discuter avec nos invités. Je vais donc vous parler du pouvoir des mots. Un orateur parle du pouvoir de la pensée positive et des mots. Un participant lève la main. Ce n'est pas parce que je vais dire le bonheur, 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 que je vais me sentir mieux. Ni parce que je dis malheur, 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 que je me sentirai moins bien. Ce ne sont que des mots. Les mots sont en eux-mêmes sans pouvoir. L'orateur commence à s'exprimer. Taisez-vous, espèce d'idiot. Vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Le participant, comme paralysé, change de couleur et s'apprête à faire une répartie cinglante. Pour qui vous prenez-vous, espèce de... etc. Pas la peine de parler la suite. L'orateur lève la main. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je vous prie d'accepter mes excuses les plus humbles. Le participant se calme. L'assemblée murmure, il y a des mouvements dans la salle. L'orateur qui parle. Vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère. D'autres mots vont en calmer. Comprenez-vous mieux maintenant le pouvoir des mots. Et c'est avec ça qu'on commence à continuer à parler avec notre invitée Valentine pour la suite. Voilà. Donc on va parler toujours en rapport avec le harcèlement. Donc là, depuis après la sortie du livre, voilà, donc comment est-ce que dans les témoignages que j'ai vus dans le livre, ça vient d'où ces témoignages-là?
Alors ça vient d'amis à moi, ou de même de personnes de ma famille qui ont vécu du harcèlement en étant plus jeune, ou de la discrimination, ou juste parce qu'ils étaient un peu plus... Ben, j'ai un cousin qui a subi de la grossophobie parce qu'il est un petit peu en bon point, il n'est même pas gros, il est juste un peu en bon point, il subit. Mes parents aussi, quand ils étaient plus jeunes, ils se sont déjà fait taper, ou voilà. Ils ont déjà été critiqués pour leurs vêtements, alors que ben, il n'y avait pas... Voilà, mais c'est la jeunesse, c'est comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui critiquent parce qu'on n'est pas comme tout le monde. J'ai eu énormément de témoignages comme ça. J'ai pris plein de petits bouts de témoignages, je les ai assemblés pour faire le livre.
Et là, donc, par rapport à ce que maintenant, donc, après le livre, après donc, ces témoignages, maintenant, comment, si voilà, donc, la décision donc, voilà, de s'exprimer, la décision de parler de ça, ça vient de...
Ben, ça vient d'un besoin, en fait. Quand j'ai commencé à écrire le livre, au départ, je voulais juste écrire sur une fille qui faisait des trucs. Au départ, c'était juste un petit livre sur une jeune fille qui découvre la vie, qui accomplit des choses. Puis plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que ça pouvait tourner en harcèlement, ce qu'elle vivait. Et plus le harcèlement prenait de la place dans ma vie, je me suis dit, bon, tu peux t'en servir. Vas-y, sers-toi-en. Enfin, le mal-être que je ressentais, les incompréhensions que j'avais, je pouvais m'en servir pour écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Le livre, il s'écrit comme ça. Plus j'avais d'incompréhension, de questionnement, de doute, de remise en question sur moi-même, de manque de confiance en moi, de jours où ça allait, d'autres pas. Plus j'ai eu ça, plus j'ai écrit.
Et donc, après, donc, au niveau donc, de former, est-ce qu'il y avait le choix de tel ou tel témoignage avant, ou bien l'histoire du livre, comment, pour le structurer de cette façon-là?
Alors, pour le structurer, j'ai d'abord fait l'histoire de l'héroïne, donc elle a une vie normale, et j'ai fait vraiment le plus gros choc possible. C'était une fille très populaire, qui avait une popularité sur les réseaux sociaux, etc. Et du jour au lendemain, bim, terminé. Elle se fait harceler. J'ai fait vraiment une grosse descente aux enfers pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Quand même, la personne la plus populaire d'un collège ou d'un lycée, un jour, elle peut se faire harceler. Du jour au lendemain, son petit empire, il peut s'effondrer et sa vie peut être détruite.
Et après, donc, sortie des livres, t'as eu des personnes qui voulaient te contacter, parler avec toi, et comment ça se déroule, donc cette rencontre, ou bien tes réponses, et comment ça s'est passé après?
J'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit « Ah, t'as écrit, j'aimerais bien l'acheter », ou qui m'ont envoyé des mails, ou qui ont vu mes articles dans le journal, ou dans certains autres endroits, qui sont sur Internet, il y a eu des articles sur moi aussi, du coup ils ont vu, ils ont acheté le livre, et j'ai eu des mails, j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux qui me disent « Ah bah tiens, je l'ai lu ». Il est super bien, je me suis reconnue dedans. J'ai un garçon que j'ai rencontré chez la psychologue quand on s'est vu, et il m'a dit « Ah bah tiens, j'achèterai bien le livre ». Une semaine après, il m'envoie un message, il me dit « Je l'ai fini, il est magnifique, je me suis reconnue dedans, c'est bien que t'écrives là-dessus, faut en parler. Moi aussi je subis du harcèlement et ça me détruit et faut en parler ». Et ça fait très bizarre d'avoir des témoignages comme ça, parce qu'on se dit « Mais On écrit à la base pour se libérer et il y a des gens que ça intéresse déjà, premier point. Et deuxième point, il y a des gens que ça peut aider. Et ça, c'est juste incroyable. Genre, je me rends toujours pas compte. Là, aujourd'hui, je suis là pour parler de ça, pour aider des gens. Cet après-midi, je vais encore aider des gens. Je vais encore aider des gens, mais je me rends pas compte que c'est grâce à ce que je fais. Enfin, c'est, pour moi, c'est incroyable. Et de recevoir des témoignages comme ça, ça fait énormément de bien. Je me rends compte que je fais pas ça pour rien et c'est vraiment, vraiment gratifiant.
Et par rapport donc, au niveau des réactions, est-ce que c'est des personnes te demandaient de l'aide ou bien donc de dire voilà, est-ce que voilà, tu apporter des conseils ou alors ils ont besoin de messages ou...
Alors ils m'ont pas forcément demandé d'aide, mais ils m'ont demandé pourquoi j'avais écrit. C'est beaucoup la question, pourquoi t'as écrit là-dessus ? À chaque fois je réponds, je raconte mon histoire, etc. Mais ça les surprend toujours parce que c'est pas l'impression que je donne. Je veux dire, les cicatrices, on les voit plus beaucoup. J'ai jamais eu tellement de comportements drastiques. Je suis toujours une personne sympa, ouverte. Je donne pas l'impression d'avoir été détruite. Et du coup, ça les étonne beaucoup. Tous ceux qui m'ont connue cette année, qui m'ont demandé pourquoi j'avais écrit, quand je leur ai dit tout ça, ils ont dit, mais on dirait pas. T'arrivais au lycée, t'étais toute bien, t'avais l'air vraiment bien, pas avoir de problème et tout. Et en fait, c'était pas le cas. Mais c'était pas vraiment le cas. Ils me posent beaucoup la question de pourquoi j'écris. J'ai pas encore eu l'occasion de donner vraiment des conseils, parce qu'après, j'ai pas non plus la science infuse. J'ai un vécu qui me permet peut-être d'aider les gens, mais je serais peut-être pas forcément apte à donner tous les conseils du monde.
Mais c'est. Bien sûr, donc souvent, donc je parle des jeunes quand ils entendent une personne qui a écrit un livre, ça y est, donc. Voilà, le fait déjà de faire ce pas-là, eux, ils veulent plus donc entendre une personne qui leur apporte, voilà, des messages clairs. Voilà, c'est comme eux, c'est comme si on les aide à s'en sortir, même avec des conseils et des messages, ça passe plus facilement que on assiste à un adulte qui essaie donc voilà d'apporter, mais il a jamais vécu donc cette expérience-là. Et par rapport donc là, comment le regard maintenant? Au lycée, par rapport à ce livre. Ils savent que voilà, tu as écrit le livre. Comment ça se passe dans le lycée maintenant ? Avec le regard des adultes, c'est-à-dire les enseignants et aussi les...
Alors, au départ, les gens de ma classe ne savaient pas trop parce que je ne me confiais pas trop à eux, je les connaissais à peine, tout ça. Puis quand j'ai commencé à recevoir des contacts avec ma maison d'édition pour le publier, je leur ai dit, oh, regardez, il y a ma couverture. Ah, puis ils ont dit, ah, tu as écrit du livre, donc je leur ai raconté. Et quand il est sorti, ils étaient tous contents pour moi. Ma prof de français a été mise au courant, mon lycée a acheté le livre pour le CDI. Mes profs ont été plus ou moins mis au courant, les mots sont passés en salle des profs, et les élèves de ma classe ont été au courant. Une fois, ils ont mis mon nom sur internet pour vérifier si c'était vrai. Et quand ils ont vu ma photo et la photo de mon livre, ils ont fait « Ah oui, d'accord, elle nous ment pas, elle a vraiment écrit un livre ». Donc c'était un peu la surprise générale, puis mes amis les plus proches, ils sont fiers de moi, ils sont contents, ils sont épatés que je fasse ça à mon âge. Et il y a des parents de mes amis aussi qui disent « Ah bah tiens, elle dit, enfin voilà, c'est quand même bien ce qu'elle a fait ta copine et tout, mais ça n'a pas changé grand chose à nos rapports. Ils sont étonnés, ils sont surpris, ils sont fiers, mais à part ça, je suis pas mise en avant, ou au contraire, je suis pas mise à l'écart parce que je fais ça. Ça fait partie de moi, ils le comprennent et voilà.
Et pourquoi donc que tu es restée voilà, comme ça, naturelle ? Parce que parfois, quand on sort un livre, parfois on fait attention, voilà, des réactions, on ne sait pas est-ce que c'est par rapport à mon livre qu'on me regarde autrement, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui jouent dans la tête. Voilà, donc. Est-ce qu'il y a un changement ? Voilà, donc c'est tout ça. Et parfois, est-ce que tu restes t'es restée la même ?
Ah oui, je suis restée la même parce que je ne me rends toujours pas compte. Quand je le prends dans les mains, je me dis que ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et quand je suis allée dans mon ancien collège hier, qu'il y a des élèves qui ont dit « Ah, c'est celle qui a écrit un livre », c'est des gens qui ont 3 ans de moins que moi. Je me dis « Mais comment vous pouvez me connaître ? On était dans le même collège, mais on s'est fréquenté qu'un an. » Et ils me connaissent par rapport à ça. Mais je ne me rends toujours pas compte que c'est moi qui ai fait ça. Ça paraît bête comme ça, mais c'est tellement quelque chose qui paraît hors du commun que j'ai du mal à me rendre compte. Du coup, je vois pas pourquoi je devrais prendre la grosse tête ou changer. J'ai déjà du mal à me rendre compte que c'est moi qui l'ai fait. Alors, de là à m'en vanter, c'est impossible
pour
moi.
Non, c'est pas grosse tête, bien sûr. Mais seulement, il y a le changement quand on dit donc, on était dans l'ombre. Parfois, et après, donc c'est directement, il y a le regard, bien sûr, donc comme partout, mais seulement, bah, parfois, la réaction, parfois on a du mal, parfois, à certains moments, voilà, de dire, est-ce que je vais rester naturel, comme ça tout le temps, ou bien parfois, il faut, voilà, montrer que, voilà, il y a un changement, ou bah, il faut, voilà, montrer aux autres que, voilà, donc c'est, je ne l'ai pas fait pour ça, parce qu'il y en a qui peuvent comprendre aussi, il y a deux façons de voir, hein. Qui peuvent comprendre, bah, parce que là, on a entendu pourquoi. Mais d'autres, bah, ils ne savent pas. Donc, ils peuvent croire que, bah, voilà, pour être reconnus, bah, voilà, pour certaines choses comme ça.
Moi, je n'ai pas écrit ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance. Je vais avoir, je ne vais pas le cacher, je vais avoir les deux. Il y a des gens qui me reconnaissent et je vais toucher une part parce que j'ai signé un contrat avec une entreprise. Donc, je vais forcément toucher quelque chose. Mais je n'ai pas fait ça pour ça. On m'aurait dit, tu touches rien, les gens ne te connaîtront pas, mais tu peux aider quelqu'un. J'aurais dit, ben, je signe quand même. Ce n'était pas un souci. J'ai fait ça ni pour l'un ni pour l'autre parce que vraiment mon but c'est d'aider les gens. Du coup, la reconnaissance, c'est pas que je m'en fiche. Enfin, c'est bien, enfin, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Mais c'était pas le but premier. Il y en a beaucoup qui font des choses pour être connus. Moi, c'était pas du tout mon but. Si je suis jamais connue ou juste dans le coin, bah, c'est pas grave. C'est mon but vraiment, c'est d'aider les autres. C'est vraiment pour ça que j'ai écrit.
Et là maintenant, donc après le livre, etc. Est-ce que tu penses qu'il faut une autre façon encore de transmettre tes messages ? Ou le livre, c'était pas suffisant ? Il faut encore une façon de réagir ?
Ben, mon but, c'est les conférences, enfin, le fait d'être devant des gens et de leur parler, de pouvoir vraiment... Que le livre, ça me permet de leur parler à travers un héros, à travers un personnage, à travers une histoire qui n'est pas exactement la mienne. Mais le fait de les voir pour de vrai, de voir des personnes qui répondent aux messages que je transmets, qui peuvent me dire voilà, moi j'ai vécu ça, ça fait encore plus de bien parce que je me dis bah voilà, je suis là pour les aider, mais je peux directement les aider. Au lieu qu'ils m'envoient des messages ou qu'ils lisent mon livre, je peux leur parler, je peux directement les conseiller ou directement leur transmettre mon histoire ou qu'ils peuvent me transmettre la leur. Et ça fait aussi bizarre, mais ça fait aussi plaisir. Et voilà, mon but c'est vraiment de faire des sensibilisations. Je vais aussi faire des salons du livre au cours de l'année où je vais rencontrer des gens qui vont venir pour acheter mon livre. Ils vont peut-être me poser des questions, me dire ah, tiens, je me suis reconnue ou tiens, j'ai vécu ça aussi, c'est pour ça que je l'achète. Et ça fait énormément de bien d'échanger avec les gens. J'ai fait mes premiers salons du livre il y a 2 ans, j'ai échangé avec les gens, c'est super gratifiant de faire ça aussi pour pouvoir échanger. C'est vraiment mon objectif aussi. Donc là, si je peux faire le plus de sensibilisation, de conférences possibles dans des lieux scolaires principalement, mais dans des lieux où...
Est-ce que tu as fait beaucoup de conférences
ou c'est... Bah là, j'ai celle d'aujourd'hui
c'est
premier,
et c'est...
ma première.
Oui. Voilà, la première conférence. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu... Donc, comment tu sens quand c'est la première conférence
Bah, j'avais un peu d'appréhension, mais vu que c'est à la radio encore, ça va parce que je me sens pas dans une bulle, mais je me sens... Genre, je vois pas les gens, ils m'entendent, mais moi, je les vois pas. Ça me dit, ça va être un peu plus compliqué parce que je serai face à eux. Mais c'est aussi une expérience de vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de faire ça. Donc moi, je saisis ma chance. On me dit, tiens, je te propose de faire ça. T'es sûr de le faire ? Oui. Mon ancien collège m'a proposé de faire une conférence pour des classes de 5e. Donc c'est plus de 100 personnes. On me dit, t'es sûr que t'es prête ? Oui. Si je peux aider même des enfants qui ont le même parcours que moi, ils sont dans le même collège, ils veulent les mêmes profs, les mêmes bâtiments, la même cantine, la même cour. Si je peux les aider et leur dire que bon, ça peut arriver là aussi, hein, pas parce qu'on est un petit collège que ça arrive pas. Mais qu'en même temps, on peut s'en sortir, on peut éviter que ça arrive. C'est génial. C'est une expérience que peut-être que je revivrai jamais dans ma vie ou que j'attendrai encore 10 ans avant de revivre. À 15 ans, je trouve ça juste énorme. Mais si j'ai la chance de pouvoir aider des gens maintenant, autant que je le fasse maintenant.
On t'a proposé d'intervenir dans des collèges ?
Oui, dans mon collège de secteur, là où j'ai été pendant 4 ans, on m'a proposé le mardi 2 juillet de faire, de faire une conférence, une intervention, dans les 4 classes de 5e du collège.
Ah, ça, c'est vrai. Donc, ça sera... Vraiment la première, donc entendre. Souvent, on a toujours invité des adultes, et là vraiment inviter donc une jeune, voilà, en plus avec un livre, ça permettra encore plus donc d'avoir de pouvoir, parce que quand on lit vraiment le livre, on a une autre vision des choses, on voit la personne d'une autre façon. C'est pas quand on invite une personne et il y a rien qui était donc déjà fait, il n'y a pas des témoignages, il n'y a pas donc une histoire. Parfois, on ne voit pas les choses, on a du mal donc, de savoir comment il y a une réaction. Mais ça montre déjà une partie donc, au niveau de la suite. Avant de continuer, donc, je vais voir donc, les invités. Voilà, par rapport à ce que tu viens d'entendre, est-ce que toi, tu as pensé une fois, après harcèlement, que tu dois faire passer aussi ton message d'une façon ou d'une autre ?
Alors, d'en parler, oui, mais, de faire un livre, ça va être plus compliqué parce que remémorer ça fait trop de mal en fait.
Pourquoi c'est compliqué ?
Bien, j'avais déjà essayé de commencer à écrire sur ça, hein, sur l'ordinateur, mais j'ai direct arrêté en fait, parce que ça me faisait trop de mal. Et donc, je préfère en parler plutôt que d'écrire.
Oui, voilà, donc ça. Et pourquoi donc ça te fait mal quand tu écris ? Pourquoi ?
Eh bien, parce que ça me rappelle tout ce qui s'est passé, en fait. Je revois tout ce que j'ai vécu du début jusqu'à la fin. Et donc tout ça en fait me dit que j'aurais, vu que moi j'ai pas fait la bonne action, j'avais pas parlé de ça plus tôt à personne. Il y en a qui s'en sont rendus compte, hein, mes amis avec qui je traînais, ils s'en sont rendus compte. Mais j'en avais pas parlé, j'avais pas fait la bonne action et je me dis peut-être que finalement c'est mieux si j'en parle que si j'écris.
Donc c'est ton choix, comme on dit, ce qui est important c'est de te libérer de ça. Parce qu'il ne faut pas attendre, comme on dit, donc chacun il a sa façon donc, de le montrer. Et comme ça a été dit avec Valentine, c'est pareil, c'est que il a commencé, donc c'était pas une préparation. Voilà, c'était donc on vit, on commence. Voilà, que ça, on a cette chance d'avoir cette possibilité-là de s'exprimer, et que ce soit par le livre, que ce soit par la parole. Ce qui est important, c'est au moins sortir tout ça, ne pas le garder. Parce que c'est ça, donc c'est cette souffrance qui a duré à un certain moment, et que surtout quand en plus, dans le cas, donc aussi pareil, c'était devant plusieurs personnes. Donc c'est des traces qui sont là, qui aussi, on voit cette image-là qui revient tout le temps. Donc avec pas seulement la personne qui est harcelée, mais aussi les autres qui étaient là, spectateurs, ce qui est parfois encore plus compliqué. Donc parce que ça reste, est-ce qu'il y a des
élèves? Je pense en réalité les pires, c'est les spectateurs, parce que eux, ils voient qu'on est harcelé, mais ils rigolent quand la personne nous harcèle. Ils cherchent pas, à aucun moment, les spectateurs chercheraient à nous aider, à aucun moment. Et c'est ça le pire. Parce que la personne nous harcèle, bon, on dit, ok, elle nous harcèle, elle est peut-être mal dans sa peau, c'est pour ça qu'elle cherche à reporter sa colère sur une autre personne, ou quoi que ce soit. Mais les spectateurs, eux, ils auraient pu réagir. Eux, ils comprenaient ce qui se passait, hein. Mais ils n'ont rien fait. C'est ça le pire.
Et maintenant, dans ton entourage, est-ce que les parents, il y a des réactions, ou ils connaissent ton histoire complètement, ou il n'y a pas de dialogue ou...
Mes parents? Oui, puisque c'est la première fois, c'est mes parents qui m'ont proposé s'ils voulaient porter plainte. C'est eux. Vu que quand ils m'étaient fait frapper dans le bus, j'osais pas revenir chez moi, en fait. J'osais pas aller leur dire qu'ils m'étaient fait frapper, parce que moi, j'avais peur qu'ils pensent que j'avais cherché, en fait. Et c'est ma sœur qui est venue me chercher à l'arrêt de bus. Et... il y avait une personne de mon bus qui est allée le crier dans tout son collège à vos couleurs, comme quoi que je m'étais fait frapper. Ça, c'était humiliant, par contre, parce que un spectateur est allé le crier haut et fort dans un autre collège. Et donc, c'est comme ça que ma sœur, elle a su que je m'étais fait frapper. Et elle est venue me chercher à l'arrêt de bus.
Et donc, comment ça s'est passé après le dialogue avec ta sœur?
Après, on a parlé à l'arrêt de bus, je lui ai expliqué ce qui s'est passé, pourquoi j'avais subi ça, qu'elle m'insultait surtout souvent par rapport à ma couleur de peau, à mon physique, ou par rapport à parce que j'étais en SECPA, donc je lui ai tout dit. Et après, j'en ai parlé à mes parents aussi, puisque le soir même, je les avais appelés quand... la fille m'avait frappée dans le bus. Je les avais appelés après pour leur dire comme quoi qu'il y avait une personne qui m'a frappée violemment, quoi. Elle m'avait vraiment amochée, hein. J'avais l'œil tout rouge, la lèvre en sang.
Donc c'est l'extrême. Donc,
c'était vraiment à l'extrême. Et pour rien, parce que en fait, pour elle, je lui avais volé sa place dans les vestiaires. Voilà pourquoi. Elle m'avait frappé.
Et cette personne-là, est-ce que donc il y avait des sanctions, il y avait donc quoi? Il s'est rendu compte de ça ou non après?
Une fois que j'ai appelé mes parents, donc du coup le lendemain ils sont allés voir la directrice du collège. Bien sûr, elle l'a su directement bien avant qu'on aille la voir, puisque ça a fait le tour du collège, carrément le tour. Donc tout le monde est venu me voir, me dit que je m'étais fait frapper. Bon, il y a certaines personnes. Ils ont dit, c'est pas normal, il faut que tu portes plainte et tout. C'est seulement au moment où on se fait frapper, qu'il y a des sanctions qui tombent, que les personnes réagissent, en fait. Sinon, dans tout le collège, tout le monde savait que je me faisais harceler. Tout le monde. n'y en avait pas un qui n'était pas au courant. Parce qu'elle le criait, elle me harcelait, mais haut et fort dans les couloirs, dans les cours.
Donc l'information n'était pas arrivée au professeur, alors que tout le monde était au courant? Ou il n'y a pas de réaction d'adultes qui sont venus te voir?
Quand je me faisais souvent insulter tout au long de l'année, ma professeure principale m'en a parlé. Elle m'avait dit que si elle revenait me voir pour me harceler encore, eh bien, je devais directement lui en parler, en fait. Je l'ai fait. Le jour où elle nous a menacés dans les vestiaires, elle nous a carrément menacés de frapper moi et toute ma classe. Sauf que la seule personne qu'elle a frappée, c'était moi. Et donc, du coup, j'en ai parlé à la professeure. Dans les vestiaires, elle m'avait mis une baffe. Juste pour une place, elle m'avait mis une baffe. Donc du coup, je suis allée en parler à ma professeure principale. Donc là, pour moi, c'était réglé, puisque elle nous avait pris à part pour nous parler. Donc pour moi, c'était réglé. Et c'était le soir même, quand je suis montée dans le bus, que le bus n'avait même pas commencé à démarrer, qu'elle m'avait déjà frappée, violemment.
Ah oui, donc... Et là, donc, après, c'était soir, les messages ou les conseils que tu peux passer, voilà, pour que ça ne recommence pas. C'est des personnes qui peuvent avoir ça tranquillement.
Eh bien, leur conseil que je peux leur donner, c'est d'aller en parler à l'assistante sociale et aussi au proviseur de leur lycée ou leur collège.
Comment leur dire de faire attention, de réagir rapidement, de quelle façon, voilà, qu'est-ce que tu veux?
Quand ça commence par des petits mots, ça va, mais quand ça devient de plus en plus violent, au bout d'un mois, deux mois, ça va devenir de plus en plus violent, eh bien, il faut se poser des questions, en fait. Parce que c'est pas normal qu'une personne t'insulte tout le temps, tous les jours, à chaque heure, tout le temps. C'est pas normal. Donc, il faut directement en parler. Que ce soit à l'assistante sociale ou même à des amis, hein, parce que parfois, les amis, ça peut être très bien. Hein, si tu as peur d'aller en parler à un adulte, des fois, les amis peuvent aller le faire pour toi. Hein, et c'est ça qui peut aider aussi.
Et maintenant, comment tu te sens? Est-ce que c'est un passé ou ça reste encore des séquelles? Ou bien maintenant, tu es encore plus forte?
Je suis plus forte. Parce que grâce à ça, j'ai eu des amis qui se faisaient harceler. Là, au collège, j'en ai une qui se fait harceler en ce moment même. Et elle se mutile, carrément. Et je lui ai dit, ça ne sert à rien de te mutiler. La souffrance ne va pas partir. Ça va juste aggraver ta souffrance si tu te mutiles. Je lui ai dit, le mieux, c'est d'en parler à tes parents. Ou je lui ai dit aussi, si tu as peur d'en parler à tes parents, je peux y aller pour toi, comme je connais très bien ses parents. Donc, je lui ai dit que si elle avait quoi que ce soit, elle pouvait me dire d'aller en parler à ses parents à sa place.
Ah, d'accord. Donc, voilà, comme on me dit, donc, voilà, c'est déjà t'es forte déjà d'en parler quand on parle à une histoire comme ça, devant tout le monde, et aussi surtout dans la radio qui va être écoutée par des parents, par des jeunes. Et ça montre que tu as fait le plus dur, et ce qu'on appelle donc ça a dépassé donc le stade de souffrance.
Oui.
Et il faut continuer sur cette voie là, il faut pas s'arrêter, c'est-à-dire dire voilà, non, il faut continuer à en parler, et il faut aussi transmettre ce message là parce que on croit que voilà, c'est personnel. Non, il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi pareil, et surtout quand ils n'ont personne pour les aider et aussi pour avoir
certes
des témoignages de cette façon-là.
N'avoir personne, je pense que être tout seul, c'est ça qui a fait le changement de comportement en nous, surtout.
Et oui, c'est pour ça que merci beaucoup d'en parler, de transmettre ces messages-là. Et il ne faut pas hésiter de demander ces renseignements, comme je t'ai demandé l'année dernière, donc on parlait sur le racisme, etc. Voilà, ça, il faut en parler. C'est surtout des choses comme ça qu'on attend, on dit que ça touche que les adultes. Non, ça touche tout le monde. Et surtout quand on est enfant, c'est la chose la plus vraiment la plus
ça
dure.
Ça touche même des primaires, des maternelles. J'en connais que eux, en maternelle, ils se faisaient harceler, quoi. Pour certaines personnes, en maternelle, c'est rien de se faire harceler. Pour eux, même pour les professeurs en maternelle, pour eux, c'est rien. Même en primaire, c'est rien. Après, ça devient, si ça ne stoppe pas directement, ça devient de plus en plus pire au collège.
Oui, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, continuer. Donc à se battre toujours et ne pas se laisser aller. Donc c'est comme on dit, un jour, un autre, tout ça, ça restera derrière. Ce qui est important, voilà, maintenant, c'est devant qu'il faut regarder. Il ne faut jamais penser. C'est-à-dire que, comme on dit, par rapport à ça, on devient encore plus forte. Et ça permettra encore d'aller plus loin. Et même, donc il faut donc montrer que tout ça, ça ne m'a pas bloqué. Donc, continuer. Et ça sera aussi l'image, ou le message à faire passer à l'autre personne qui t'a, voilà, donc, qui t'a harcelé.
Oui.
Parce que ça, là, il va se rendre compte. Des messages comme ça, il faut les faire passer. Et ça, avec la radio, peut-être ces personnes-là, dans quel collège s'est passé ça?
Au Thiel.
Au Thiel, là-bas. Alors,
oui, juste donc, en bas.
Alors, et la personne, elle est ici au lycée?
Elle y était l'année dernière, mais en début, mais elle n'y est plus.
Donc ils habitent, donc peut-être que les parents vont entendre ça, ou bien la personne va entendre ça, et ou d'autres, ou bien les amis, ils vont écouter ça, ils vont lui transmettre ce message-là, ils vont lui dire, et ça peut encore mieux faire réveiller cette personne et se rendre compte que c'est, on croit que c'est un amusement, c'est la rigolade, c'est toujours une personne qui souffre devant, c'est pour moi, c'est un plaisir. Et non. C'est, on peut détruire
la vie de quelqu'un.
La vie de quelqu'un et même plus donc, des séquelles. Parce que, comme on dit, c'est comme on fait une maladie. Contaminer une personne, c'est pareil. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Donc, ce n'est pas les médicaments. C'est-à-dire que ce n'est pas donc, seulement dire voilà, je vais oublier. Non. C'est parfois, chaque fois, ça peut revenir.
Oui.
Seulement un petit moment, un petit truc, une petite histoire, et hop, ça y est, ça peut revenir.
Voilà.
Et ça fait penser donc, à tout. Voilà. Et, comme j'ai dit, merci, il faut continuer sur ce chemin. Et maintenant, je reviens à Valentine. Voilà, pareil. Donc, voilà, tout ce qu'on vient d'entendre, voilà, comment maintenant aussi les messages, comment ça se passe pour faire passer aussi ton message et de quelle façon. Chaque fois, il faut réagir pour donc, montrer que n'importe qui peut avoir ces problèmes-là.
Alors, faut en parler. Si on est témoin de scènes de harcèlement, de scènes de violence, comme là, par exemple, elle a expliqué dans le bus, il y a des gens qui l'ont vu, le chauffeur l'a vu, les gens l'ont vu, ils n'ont rien dit, ils ont juste trouvé ça marrant de propager le fait, alors que ce n'était pas du tout la chose à faire. Il faut en parler. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on a peur d'être mis dans le tas des harceleurs ou des harcelés. Je sais qu'on a peur de prendre dans la gueule tout ce que le harcelé prend. Mais il faut savoir aussi prendre des risques et assumer. On voit des choses. On risque pas grand chose. Hein. Je veux dire, il y a des harceleurs qui peuvent être très violents, mais si ça remonte à une échelle plus haute, à des CPE, à des parents, à même la gendarmerie, ils finiront de toute façon par arrêter parce qu'ils vont être bloqués à un moment donné. Les gens qui menacent, ouais, tu dis je vais te tuer, ils vont rien faire, ils vont pas te tuer. Enfin, les violences physiques, elles existent, je dis pas le contraire, mais de là à tuer quelqu'un, c'est quand même une menace un peu en l'air. Il faut pas avoir peur d'en parler, je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a très peu de personnes qui ont le courage de le faire, parce qu'il faut être très courageux pour dénoncer un fait. Mais il faut en parler. Il faut en parler aux parents, à d'autres gens. Il faut essayer que ça se sache, sans pour autant que ce soit propagé comme une rumeur. Faut pas laisser la personne dans sa détresse, parce que vraiment ça peut la détruire. Il y a des gens, ils sont témoins pendant des années et ils ne disent rien, ils trouvent juste ça marrant de propager ça ailleurs, et c'est pas du tout le but, c'est pas du tout la chose à faire. Vraiment, faut en parler. Même quand on est harcelé, on se dit oui, il faut en parler, ou alors on se mutile comme disait Marie tout à l'heure. Ceux qui se mutilent, faut en parler aussi, parce que je suis tombée dedans, je l'ai fait aussi, et plusieurs fois j'ai voulu en parler, mais j'ai eu peur qu'on me prenne pas au sérieux, qu'on dise oui, elle fait ça pour faire son intéressante, pas du tout. Si vous vous autodétruisez, si vous subissez du harcèlement, vous vous sentez mal, parlez-en vraiment. À un psychologue, à un prof, à un ami, à qui vous voulez, mais parlez-en vraiment, ça peut que vous aider, ça peut que vous faire du bien. Même si le problème du harcèlement n'est pas réglé tout de suite, qu'il va falloir changer d'établissement, ou changer d'amis, ou voir des professeurs pour que ce soit arrangé, des procédures, tout ça. Même s'il faut aller jusqu'à la gendarmerie, parlez, vraiment. Ça peut que vous aider, ça peut que aider à arranger les choses. Parlez. Vraiment, ça vous libère. Là, aujourd'hui, on est deux à en parler. On sera peut-être plus dans quelques temps. Il y a des gens qui sont déjà venus témoigner à la télé, à la radio, dans des journaux. Parlez-en. Vraiment, ça peut que vous aider à vous en sortir et peut-être d'autres personnes à s'en sortir aussi.
Alors, quand je viens d'entendre que tu as parlé, il faut maintenant même avoir même d'autres personnes qui peuvent aussi, donc, ça va être pour eux, donc, une chance d'en parler, dire voilà, donc, j'entends maintenant une personne qui a, voilà, qui a pu s'exprimer, qui a essayé donc de transmettre des messages. Est-ce que tu n'as pas pensé une fois dire, voilà, par rapport à les messages que tu as reçus ou des témoignages, tu as dit, il faut maintenant vraiment faire un groupe ou bien donc essayer donc de, voilà, donc d'être, pour être plus, le message se fasse mieux et aussi donc ton message soit plus fort par rapport à, donc, pas seulement autour de toi, mais plus loin. Est-ce que tu as eu, tu as pensé à faire dire, voilà, je vais former un groupe pour aller plus loin et ne pas être toute seule?
J'avais pensé à former une association de groupes de parole parce que je sais pas, je connais pas assez de personnes ou j'ai pas assez de contacts dans ce milieu-là pour en faire. Mais s'il y a des gens qui veulent m'envoyer des messages, des mails, je crois qu'il y avait mes contacts dans le livre, ou dans les articles de journaux. Par rapport à mon livre, s'il y a des gens qui veulent envoyer des messages pour qu'on crée des groupes de soutien ou rien, juste sur Instagram, un petit groupe où on parle de ça. S'il y a des gens qui ont besoin de parler d'aide ou de soutien, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout. Après, j'ai jamais pensé à faire un groupe de soutien à proprement parler parce que je suis pas en contact avec une maison des ados ou un chose comme ça qui pourrait le faire. Et j'ai pas assez de contact, entre guillemets, là-dedans pour en faire. Mais si un jour on me propose, vraiment, pourquoi pas, hein.
Oui, donc ça, comme on dit, donc c'est, tu vas continuer donc tes études à Nancy, donc
jusqu'à la terminale, oui. Après, je sais pas où je vais aller, mais jusqu'à
donc, à ce moment-là, donc comme j'ai dit, donc on peut donc rester en contact pour que je te montrerai, donc là j'ai des contacts à Nancy, pour à ce moment-là tu diras à qui t'adresser pour c'est là où ils ont vraiment donc des rencontres avec des jeunes et aussi parfois même des cas comme ça, donc qui peuvent après, comme ça permettra de vraiment de continuer à travailler d'une façon à transmettre donc ces paroles, et voilà, donc ça il faut continuer. Alors donc par rapport à donc le livre, etc., donc ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que tu as encore à ajouter, à apporter aussi encore pour que les gens se motivent encore plus pour aller plus loin?
Si jamais vous sentez le besoin de vous exprimer par rapport à ça, appelez, il y a aussi des numéros verts et qui sont aussi marqués dans mon livre. Il y a plein de gens que vous pouvez aller voir, n'importe qui, parlez-en. Et si vous avez besoin de vous exprimer parce que vous avez peur d'en parler, vous devez dessiner, écrire, chanter, faites-le. Ça peut que vous libérer. Il y a des gens, je sais, qui jouent de la musique, il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui chantent. Faites-le, ça peut que vous libérer. Trouvez une activité qui vous libère si vous n'avez pas encore le courage d'en parler. Trouvez un moyen de vous libérer, vous ne laissez pas bouffer par ça. Et si vous trouvez dans ces activités-là quelqu'un, parce que ça vous permet de faire des rencontres, si vous trouvez dans ces activités-là quelqu'un qui serait digne de confiance d'en parler, parlez-lui-en, trouvez des solutions. Les gens ne sont pas tous des monstres et ils ne vous mettront pas tous dans une situation pas possible. Si vous leur en parlez, parlez-en vraiment. Exprimez-vous. Libérez-vous, sortez, vivez, c'est le plus important. Parce que la souffrance qu'on s'inflige à soi-même, elle est horrible, elle est invivable. Et si on n'a pas les moyens de s'en sortir, malheureusement, il y a des adolescents qui ne s'en sortent pas. Donc vraiment, vous ne laissez pas abattre par ça, vous ne laissez pas enfermer dans votre bulle, vous ne laissez pas détruire, vous ne laissez pas vous consumer à cause de gens qui vous font du mal ou que vous fassiez du mal vous-même. Et faites en sorte de vous en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que c'est dur, mais il m'a fallu du temps. Il y a des gens à qui il a fallu encore plus de temps qu'à moi. Il y a des gens qui l'ont fait tout de suite, mais vous avez un jour l'occasion d'aller voir quelqu'un, que vous sentez que la personne-là, il y a peut-être moyen de lui dire, ou que vous trouvez un début de solution. Saisissez votre chance et vous laissez pas faire aussi. Là, elle expliquait, Marie, tout à l'heure, qu'il y a une fille qui l'a tapée parce qu'elle voulait pas lui laisser sa place dans les vestiaires. Luttez, mettez-vous contre la personne. Vous laissez pas faire parce que c'est madame la reine du monde. Vraiment. Les harceleurs sont pas les rois du monde, ils sont au même niveau que nous, tout le monde a la même valeur. Après, c'est au niveau des caractères et de la morale, mais ça, c'est un autre débat. Tout le monde a la même valeur en soi, on est tous des êtres humains, on est 7 milliards à être au même niveau. Il n'y a pas de « je suis la reine du monde », machin. Si quelqu'un vous fait du mal, ne vous laissez pas faire. Et si cette personne continue à vous faire du mal, dénoncez-la. Elle vous fera rien de plus. J'ai déjà vu des gens que j'ai dénoncés finir chez la CPE à se prendre 2 heures de colle, ils ont moins fait les fiers parce qu'il y a eu des conséquences. Si ils voient qu'il y a des conséquences, que vous bougez, que vous vous laissez pas faire, ils vous laissent tranquille. Et ignorez-les aussi. Rentrez pas non plus dans leur jeu pour leur faire du tort. Vous laissez pas faire, mais ignorez-les. Parce que quand on ignore, le silence est la pire des attaques. Si on riposte pas, si on montre pas qu'on est touché, si on se met pas contre la personne dans le but de lui rendre la monnaie de sa pièce, elle nous laisse tranquille. Après, c'est beaucoup plus dur à faire qu'à expliquer ici, hein, vraiment, je le sais. Mais Encore une fois, vraiment, parlez, libérez-vous, vous laissez pas faire. Le harcèlement, c'est de moins en moins tabou, mais c'est une énorme injustice, c'est quelque chose de vraiment très grave. Et il y en a de plus en plus, et il faut vraiment pas laisser faire ça. Si vous voyez des gens qui le subissent, aidez-les, défendez-les, même si vous vous sentez capable, laissez pas faire ça, parce qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'ados qui sont détruits par ça, de plus en plus de gens qui s'en sortent pas, et il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans les combines pour être comme les autres et suivre le mouvement parce qu'il y a l'effet de groupe. Vous laissez pas emporter là-dedans, et si vous en êtes victime, parlez-en.
Et donc, par rapport à ta réaction, par rapport à ton livre, est-ce qu'il y en a ou bien tu as senti parfois que c'était bénéfique ou c'était un regret à certains moments de commencer par un livre au lieu de commencer par parler avec les gens ou tu as senti que c'était vraiment le meilleur outil pour avoir cette possibilité-là de, maintenant d'être connu pour s'exprimer ou bien tu n'avais même pas besoin de livre pour être connu pour qu'on t'appelle pour discuter parce que certains ils disent moi, je ne peux pas faire un livre. Est-ce que j'aurais la possibilité d'avoir cette possibilité de s'exprimer et qu'on peut m'écouter?
Moi, j'écris parce que c'est ma thérapie. J'ai toujours beaucoup écrit. Hein. J'ai écrit près de 800 textes quand j'étais vraiment mal. J'ai écrit 2 livres. Là, je suis en train d'écrire un 3e. J'avais écrit des nouvelles quand j'étais plus jeune, vers 8-9 ans. L'écriture, c'est ma thérapie. C'est mon moyen à moi de m'en sortir. Après, il y a des gens qui ont d'autres moyens. Si vous trouvez un moyen qui vous permet de vous en sortir, peu importe ce que c'est, utilisez-le. Et vous pouvez juste parler. Si vous allez voir une maison des ados, dire voilà, faut que je vous parle de ça, je vais pas bien, il se passe ça, ils vous écouteront. Et si vous dites j'aimerais bien vous parler, si vous avez pas des choses, ils mettront peut-être en contact avec des associations ou des choses comme ça pour aider. Parler, tout le monde sait le faire. On l'a tous appris quand on était petit. Et si vous vous sentez capable de parler de votre histoire pour aider des gens, faites-le. Sauter sur l'occasion, vraiment, c'est quelque chose qui peut être très important. Et on dirait pas comme ça. Il y a des témoignages qui permettent de libérer la parole. Moi-même, c'est des témoignages aussi qui m'ont permis de me dire « Ah bah, je peux peut-être en parler. » C'est un effet boule de neige. Les gens témoignent, donc ils aident d'autres gens à témoigner. Franchement, même si vous aidez qu'une seule personne, faites-le. Témoignez, parlez. Si vous vous sentez capable, faites-le. Ça peut toujours aider les gens.
Voilà. Et aussi pour... donc, au niveau de la suite, tu m'as dit que tu es en train d'écrire un livre. C'est toujours sur le même thème aussi. Voilà, maintenant, c'est... C'est sur autre chose.
C'est sur autre chose. Là, j'écris plutôt du fantastique, enfin pas du fantastique, plutôt de la science-fiction. Je suis plus dans l'écriture loisir, dans l'écriture créative, plutôt que dans l'écriture thérapie. J'ai écrit 2 livres vraiment pour faire une thérapie. Maintenant que je vais mieux dans ma vie, je me sens plus capable d'écrire des livres loisirs, des livres vraiment juste pour exprimer ma créativité. Après, c'est aussi pour condenser toutes mes idées parce que mon cerveau réfléchit tout le temps. J'ai tout le temps des idées qui viennent de partout. Donc dès que j'ai le temps d'écrire, j'écris. Il me prend beaucoup plus de temps, du coup, parce que c'est j'imagine et je retranscris pas juste ce que je vis, mais c'est plus écriture créative, vraiment pour me défouler de mes idées, plutôt que pour me défouler de mon vécu.
Alors, si des personnes qui ont le même âge que toi, et qui veulent aussi, et qui aussi ils aiment bien écrire, mais n'ont pas encore le déclenchement pour commencer, quels conseils que tu peux leur donner pour qu'ils peuvent démarrer alors qu'ils ont la même possibilité que toi, donc ils aiment écrire mais ils n'ont pas encore fait le premier pas.
Et pour les jeunes qui aiment écrire et qui aimeraient comme moi écrire des livres ou comme d'autres jeunes qui ont écrit des livres avant, déjà notez vos idées. Notez-les. Dès que vous avez une idée, par exemple, vous avez une histoire de base, ça veut parler d'une personne qui a fait tel ou tel truc, notez le prénom, l'âge du héros que vous voulez lui donner, l'univers dans lequel il vit, l'idée principale, notez. Après, si au fil des jours, prenez un petit bloc-notes. Alors ça, important, ça je l'ai fait. Prenez un bloc-notes, un agenda, ce que vous voulez, un stylo. Et dès que vous avez une idée, n'importe où, n'importe quand, vous la notez. Même dans votre téléphone, vous la notez. Et quand vous pensez que vous avez suffisamment d'idées pour commencer une histoire, prenez une feuille. Si vous écrivez à la main ou votre ordi, si vous êtes plus à taper. Moi, j'écris à la main après, ça dépend des gens. Commencez à écrire. Il y aura des imperfections au début. Il y aura des choses qui seront peut-être pas trop bien que vous voudriez retravailler. Ou des chapitres que vous voulez réorganiser, mais écrivez. Ordonnez vos idées, essayez de dire oui, donc ça va dans un chapitre. Après ça, je pourrais peut-être mettre une idée dans un 2e chapitre. Et vous verrez, ça ira tout seul. C'est un coup de main à prendre, hein. Tout le monde n'est pas inné à écrire des livres, mais si vous voulez écrire même des petites nouvelles d'une dizaine ou quinzaine de pages, c'est déjà ça. Ordonnez vos idées sur des papiers, notez tout le temps ce que vous pensez, et quand vous pensez que vous avez assez de matière pour écrire, écrivez. Et vous verrez, ça vient tout seul, vraiment. Quand on a une petite feuille avec les idées principales qu'on veut, on a le crayon à la main ou l'ordi sous les doigts, on commence à taper, on dit ah tiens, ça ce serait bien, ça se fait tout seul, vraiment. Tout le monde n'est pas destiné à écrire, on a tous des passions différentes, mais pour ceux qui veulent essayer, vous ne perdrez rien.
Voilà, donc c'est ça qu'il faut suivre ces conseils-là Et normalement, donc ça, quand on commence, voilà, on voit l'exemple. Après, bah, quand on sort par rapport à une histoire qui est difficile, après, bah, on s'y libère pour vraiment se consacrer à le plaisir, loisir de d'écrire.
C'est ça.
Voilà, quand on va dire par rapport au fantastique ou voilà d'autres domaines. Et ça, ça encore, c'est une libération. Donc, on montre que voilà, ce moment-là qui était difficile, et maintenant il est loin, loin, loin. Et maintenant, ça permettra aussi pour montrer aux autres qu'on peut s'en sortir. C'est, comme on dit, même c'est l'harcèlement qui, parfois, on croit que c'est pas donc, grave, il n'y a pas de violence derrière, et la personne n'était pas vraiment donc, attaquée donc, d'une façon que, voilà, devant tout le monde, comme ça a été pour Marie, et, bah, malgré ça, bah, parfois c'est encore plus compliqué. Parce qu'on ne se rend pas compte. C'est là qui est plus difficile. Mais il ne faut pas rester, attendre. Non. Il faut réagir.
Il faut s'exprimer.
Voilà, il faut s'exprimer. Vraiment. Il faut donc voilà, réagir d'une façon rapide, que ce soit par rencontrer des adultes ou des personnes donc, d'entourage, etc. Et ça, ça aide encore plus. Voilà, donc, dernière parole que tu peux ajouter ou dernier mot par rapport à ça.
Surtout, il ne faut pas avoir honte de parler. Si on n'est pas fait parce qu'on parle. Il ne faut pas avoir honte d'être ému parce qu'on a vécu aussi. Important. Si vous écrivez, vous sentez que vous pleurez quand vous écrivez, pleurez, écrivez en même temps, ce n'est pas grave. Si vous allez parler à quelqu'un que vous pleurez en parlant, pleurez, ce n'est pas grave. Pleurer, ce n'est pas une honte. Souffrir, ce n'est pas une honte. C'est comme ça. Vous avez souffert, bah, votre corps il réagit, il pleure. Pleurer, ce n'est pas être faible. Aller parler, ce n'est pas être faible. S'exprimer, ce n'est pas être faible. Ne pas se laisser faire, ce n'est surtout pas être faible. Bien au contraire. Ça demande beaucoup plus de force d'aller parler à quelqu'un en pleurant que de rester comme ça sans rien faire, sans rien montrer. Vraiment. Allez, même si ça vous aime, même si vous mettez 10 ans à aller voir, même si vous allez voir 4 fois la personne avant de lui raconter votre histoire, même si ça prend 8 heures, même si ça prend des jours entiers, si vous avez besoin de pleurer ou prendre du temps, pleurez et prenez du temps. Ça fait mal. On en a conscience. Raconter une histoire, raconter qu'on s'est autodétruit, raconter qu'on a subi, c'est pas facile. Ça émeut. Au début, c'est très très compliqué vraiment d'en parler devant tout le monde. Mais faites-le. Si vous êtes ému, c'est pas une honte. Et la personne en face vous jugera pas parce que vous pleurez ou parce que vous vous sentez mal ou parce que vous êtes mutilé ou parce que vous êtes tapé, parce que vous êtes brûlé. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous avez souffert, vous avez su exprimer votre souffrance. Et après, vous allez voir des psys pour plus pleurer. Il y a des médecins qui sont faits pour ça, il y a des spécialistes. Mais si vous avez besoin de vous exprimer et que ça vous fait du mal de vous exprimer, et que vous avez quand même envie de le faire, faites-le quand même. Apprenez aussi à gérer vos limites. Si ça vous fait trop mal, ne vous forcez pas non plus. Mais si vous devez un petit peu souffrir et que vous assumez le fait de souffrir, bah, ayez pas peur de pleurer, c'est pas grave. Mais exprimez-vous vraiment. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le. Peu importe comment, peu importe pourquoi, faites-le.
Vraiment, c'est vraiment merci de vraiment toutes les informations. Avant de clôturer donc notre émission, je vais vous faire le rappel, voilà, donc du livre de notre invité Valentine Kessler. Donc c'est le titre virtuel, roman autobiographique. Voilà, donc l'histoire à l'intérieur, je vous lis seulement le résumé donc du livre. Virtuel est l'histoire de Lina, 13 ans, une adolescente ordinaire qui va connaître une popularité subite grâce aux réseaux sociaux. Mais du jour au lendemain, son monde va s'écrouler, car il va passer de la popularité au harcèlement. C'est à ce moment que Lina va comprendre que rien n'est acquis dans la vie et que tout peut aller très vite. Donc ce récit-là, c'est vraiment donc autobiographique qui parle complètement donc de l'harcèlement et surtout au niveau d'imagination et contient aussi des traces de l'aide aussi pour les gens qui ont besoin pour comprendre et en même temps pour vous donner donc au moins les idées aussi pour vous faciliter, donc pour s'en sortir aussi. Donc, et vraiment, merci beaucoup vraiment par rapport à d'accepter cette invitation-là. Et vraiment, je suis fier moi, de toi par rapport à la façon de t'exprimer et aussi de le dire naturellement. Et ça vraiment, ça passe facilement. C'est un message fort. Et comme on dit donc fort, c'est-à-dire il est touché. Et on a vu déjà les élèves qui étaient là, qui étaient touchés, des parents aussi qui étaient même présents et qui étaient touchés parce qu'ils ont senti cette douleur. Pourquoi ? Parce que ça leur fait rappeler leurs enfants. Et certains, donc vraiment, ils ont pensé complètement. Et on a vu, donc, la Marie qui était là, présente au départ, bah, quand elle a entendu, donc ça lui a donné l'idée, la force, alors que l'année dernière, même, on avait parlé, il n'a pas voulu. Il m'a même parlé donc, qu'il était harcelé. Il m'a parlé sur le racisme, mais il n'a pas parlé de ça. Mais quand il t'a entendu, quand il t'a entendu ton témoignage, bah, ça lui a donné vraiment l'envie de dire, de parler aussi comme toi. Et ça, ça vraiment c'est vraiment c'est fort aussi et il faut continuer de parler, il faut continuer donc voilà des rencontres directes. Alors que ce soit avec les parents, soit avec les jeunes aussi, comme tu m'as dit, donc tu as aussi donc t'es invité pour parler ça dans les collèges. Il faut pas hésiter. Et vraiment, c'est comme ça que le message passe mieux. Et vraiment, merci beaucoup. Et comme on dit, donc là, je suis dans la parole pour parler de un peu de publicité par rapport à ta présence cet après-midi. Alors, merci. Pourquoi ?
Voilà, ben. Pour rappel, cet après-midi, je fais une conférence au cinéma de Commercy. Donc à partir de 15h, on fait un débat animé sur le harcèlement. Il y aura des gens de l'AMEX, il y aura des gens du CCAS, il y aura un psychologue qui sera là avec moi. Et on est là pour parler, pour débattre du harcèlement. Donc venez, il n'y a rien de... c'est gratuit, il n'y a rien d'obligatoire, il y a... c'est de la détente. Vous venez, on débat sur ça, si vous avez besoin d'en parler, bah, c'est aussi le moment. Vous avez des questions à poser, c'est aussi le moment. Vous voulez apprendre des choses sur le harcèlement ou peut-être voir des différentes facettes ou simplement vous renseigner ou simplement passer un bon moment, bah venez. C'est un sujet qui est pas facile, c'est un sujet qui est grave et c'est un sujet qui a besoin d'être entendu parce qu'on en parle. On en parle, mais encore pas assez à mon goût. Donc venez nombreux cet après-midi, donc pour rappel, au cinéma de Commercy à 15h.
Voilà, donc voilà, vous entendez les parents, n'hésitez pas, donc ramenez aussi vos enfants. Voilà, participer à cette conférence, à cette rencontre, parce que vraiment, c'est indispensable pour faire passer des messages, même si donc, vous n'êtes pas touché, mais en même temps pour aussi, si vous rencontrez donc, ces enfants-là ou bien donc, des parents qui ont vécu ça, bah, ça permettra aussi de leur faire passer des messages. Et ça, c'est vraiment très important, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc de participer et de venir écouter. Voilà, c'est pas seulement Valentine, il y aura aussi des professionnels qui seront là aussi pour échanger avec vous. Et vraiment, c'est une chance pour Commercy. Donc, bah, il faut ne pas hésiter de faire passer ce message-là. Et ça sera vraiment donc, l'occasion pour aussi faire tomber. Donc, c'est préjugé aussi que l'harcèlement, c'est pas toujours attendre ou quand la personne a été violentée ou bien donc à l'extrême pour dire que voilà maintenant là on entend non ça peut commencer par seulement par des insultes par vraiment des mots quand j'ai comme l'histoire que j'ai racontée ou bien les mots que j'ai dit au départ c'est un mot c'est plus fort que frapper c'est ça qu'on se rend pas compte ça vraiment ça laisse des traces parce que ça c'est des choses qui se répètent dans la tête alors que frapper bah c'est comme on dit donc on oublie facilement mais les mots ça laisse des traces encore. Et ça, il ne faut pas hésiter de penser. Donc, je termine donc avec donc des paroles. Si je veux réussir à accompagner des personnes, si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, juste là. Celui qui ne se fait surtout, ne se fait cela, se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres. Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui. Mais d'abord, comprends ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que l'aider. Ce soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. Et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre. Et c'est avec ça donc je termine et merci beaucoup à Valentine de vraiment accepter cette invitation et je te dis donc vraiment courage pour cet après-midi et aussi j'espère que ton message va passer et n'hésite pas donc on reste en contact sur d'autres à un moment pour aussi donc se rencontrer pour discuter par rapport à ce thème-là et aussi par rapport donc à la suite des rencontres que tu as eues donc que ce soit ici ou ailleurs. Et merci beaucoup, vraiment. Donc, vraiment, le message est fort qu'on vient d'entendre aujourd'hui.
D'accord, merci
vraiment,
à
c'est
vous.
Rare. Merci.
Merci à vous.
Voilà, donc, un peu de pause et on partira après avec d'autres invités et toute la journée jusqu'à 17h. Merci beaucoup, toujours avec vous, Radio Voc. Merci. Tables back, let's try that. You hit the town, and I hit the town, and you mess around, and I mess around, and we take what we found, and we don't make a sound, cause secrets aren't escaping from a box.
What type you used to find out riding on a Bronco? These days it's Tahoe or Silverados. Rear view rosary, a truck full of pot smoke. Looking for the next one, thoughts on the last one. If I don't have one, then I'm trying to grab some. Don't pass one without thinking, damn son. And they always know when they get the reaction. I stay busy, but damn, go figure. Condoms in my wallet on my old girl's picture. Hit the best friend, said they would like sisters. Plotted out sober, then I blame it on the liquor. Different girls, but it's all the same sequence. Circle each other and look for a weakness. I make my mark, but I won't stick my teeth in. So wounds can be healed by the start of the weekend.